Excellent réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les deux tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans dans le monde. L'activité humaine, principale responsable, répète ce matin le WWF, le Fonds mondial pour la nature. L'avenir de l'humanité est en jeu si rien n'est fait. Un vœu pieux que certains prennent au sérieux, les plus jeunes notamment en Australie.
Des adolescents passent par la case justice pour empêcher l'agrandissement d'une mine de charbon nocive, disent-ils, pour les réserves en eau.
En France, blessée dans sa chair, meurtrie psychologiquement mais pas soumise, l'équipe de Charlie Hebdo s'est livrée hier au procès des attentats de janvier 2015 à un plaidoyer en faveur de la liberté d'expression et contre le fanatisme religieux.
À la une encore, Londres et Bruxelles se retrouvent aujourd'hui pour une explication de texte sur le Brexit.
La langue de Shakespeare pour mener les négociations, mais aussi du latin pacta sunt servanda, ce qui a été convenu doit être appliqué, tonne Bruxelles.
Et puis une nette hausse des cas de Covid-19 en France, l'exécutif sera obligé de prendre des décisions difficiles, estime le président du conseil scientifique.
Mais pas question de mettre le pays de nouveau à l'arrêt, les salariés du privé contraints de garder leurs enfants à cause de crèches ou d'écoles fermées et qui sont dans l'impossibilité de télétravailler pourront bénéficier du chômage partiel, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement hier.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, comment expliquer les résistances au télétravail? Je poserai la question à Pascal Loquiet, qui est professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de se présenter à une élection, mais ce n'est pas une raison, disent-ils, pour laisser le champ libre aux politiques qui menacent leur avenir et celui de la planète. En Australie, des adolescents viennent de lancer une action collective en justice contre la ministre de l'Environnement. Leur objectif, l'empêcher d'autoriser un projet d'extension de mines de charbon dans l'état des Nouvelles-Galles du Sud. L'Australie, dont l'économie reste très dépendante de son industrie minière, est le pays qui pollue le plus au monde par habitant. La correspondance à Sydney de Grégory.
Greta Thunberg a fait des émules en Australie puisque ce sont des adolescents issus de tout le pays qui sont à l'origine de ce recours. Leur but, c'est d'empêcher la mine de Vickery, à 450 km au nord de Sydney, de s'agrandir. Ce projet d'extension lui permettrait de doubler sa capacité d'extraction jusqu'à 10 millions de tonnes de charbon par an. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour ces jeunes, à l'image d'Ambrose qui s'est exprimé sur la chaîne ABC.
Je participe à ce recours en justice parce que je veux me battre pour mon avenir. Nous devons agir maintenant, mais pour l'instant, le gouvernement n'en fait pas assez.
Ce recours a la particularité de ne pas contester le projet en lui-même, mais de prendre directement à partie la ministre. C'est Izzy, du haut de ses 13 ans, qui l'explique.
Nous pensons qu'elle a le devoir de protéger les jeunes Australiens et les jeunes du monde entier des effets du changement climatique.
Malgré les terribles incendies qui ont ravagé l'Australie en début d'année, le gouvernement reste un soutien indéfectible de l'industrie minière. Après le fer, le charbon est d'ailleurs le deuxième produit d'exportation de l'Australie. Il a rapporté plus de 30 milliards d'euros l'an dernier.
De quoi donner du grain à moudre aux défenseurs de l'environnement. Le rapport intitulé « Planète vivante » du WWF, publié aujourd'hui, porterait assez mal son nom, car c'est un constat alarmant que dresse le Fonds mondial pour la nature. Nous avons perdu 68% des populations d'animaux sauvages depuis les années 70. Il y a deux ans, ce même rapport montrait un effondrement de la biodiversité de 60%. Les choses vont donc de mal en pis. Poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens, plus de 4000 espèces ont été suivies par le WWF. Certaines ont quasiment disparu et la perte de leur habitat, liée par exemple à l'activité humaine et notamment à la déforestation, semble être la principale cause de ce déclin, Célia Kiré.
Au Congo, la population des gorilles a chuté de 87% en 50 ans. En Europe, les populations de moineaux ont diminué de 60% depuis le début des années 80 et il y a désormais 50% de papillons en moins. Mais la région la plus touchée par ce déclin est de loin l'Amérique du Sud, selon Véronique Andrieux, directrice générale du WWF.
Si on prend par exemple l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, c'est un effondrement absolu. C'est 94% de perte de nature. Si on prend les milieux zones humides, rivières, lacs, hein, c'est 84% de déclin de la nature, c'est absolument effroyable.
La déforestation, l'agriculture intensive, la surpêche et la pollution expliquent ce déclin. Pour Arnaud Gauffier, directeur des programmes, les poissons et certaines espèces de tortues sont parmi les plus menacées.
Les sturgeons, par exemple, en Chine, qui a vu sa population baisser de 97% cours des 30 dernières années. En France, vous avez l'anguille qui a quasiment disparu à cause des différentes pollutions de la Loire, de la Gironde. Vous avez la tortue lutte en Guyane qui est extrêmement menacée puisque les sites de ponte sont régulièrement braconnés. Vous avez aussi des pollutions qui menacent cette tortue et le changement climatique qui laisse de moins en moins d'espace pour ces tortues pour se reproduire.
Enfin, selon ce rapport, d'ici 2100, plus de 20% des animaux sauvages pourraient disparaître à cause du changement climatique.
Le changement climatique qui aggrave aussi la saison des incendies aux États-Unis. Des cendres et un ciel rouge, orangé, une impression d'apocalypse sur la côte ouest des États-Unis, de l'État de Washington, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego, dans le sud de la Californie. Entre les deux, l'Oregon a vu partir en fumée 120 000 hectares et au moins 5 localités ont été en grande partie détruites. Alimentées par la sécheresse et des vents violents, des incendies d'une ampleur historique continuent de ravager les forêts, les parcs et les villes américaines. Ces feux ont causé la mort de 6 personnes, dont un enfant.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu au procès des attentats de janvier 2015. C'est à eux désormais de porter la parole de celles et ceux qui ne sont plus là.
Les veuves, fils ou filles des membres assassinés de Charlie Hebdo vont tenter de faire revivre leur mémoire dès ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Hier, les survivants de la tuerie du 7 janvier ont témoigné de la violence de l'attaque djihadiste et de leurs séquelles, toujours vives, 5 ans après. Ceux qui ont été physiquement blessés, Simon Fieschi, le jeune webmaster de Charlie Hebdo, le journaliste Fabrice Nicolono, Laurent Sourisseau d'Iris, dessinateur et directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Ensuite à l'urgentiste Patrick Peloux, lui aussi chroniqueur au sein de Charlie. Compte rendu d'audience signé Florence Turm.
C'est d'abord le médecin et l'ami qui parlent. Celui qui a sauté sur sa moto au coup de fil de Jean-Luc, le maquettiste. Viens vite, ils nous ont attaqués. Patrick Peloux avait une réunion dans le quartier. Il est l'un des premiers à arriver sur les lieux. Plus je montais les marches de l'escalier et plus il y avait de sang. Je suis médecin urgentiste depuis très longtemps, j'en ai vu, mais des scènes comme ça, jamais. Une véritable scène de guerre, l'apocalypse. Il souffle un instant, reprend. J'ai senti physiquement comme une fracture. C'est blessé à aider. Ma désespérance à voir Charbe dans cet état. Si j'ai fait médecine, c'est pour sauver des gens. S'il y en avait que j'aurais voulu sauver, c'était eux et j'en étais incapable. Son regard se perd au bord des larmes. Eux, c'était des gens de paix, pas des gens de guerre, poursuit Patrick Peloux. Le propos devient politique, comme avant lui celui de Rice et Fabrice Nicolino. Il dénonce à son tour le fascisme islamiste, regrette que la société et les politiques ne comprennent pas l'importance de la laïcité. On n'empêche personne de croire qu'on ne nous empêche pas de penser, de créer, de développer la culture. Ils ont réussi à inventer une phobie, déplore-t-il, dès que l'on critique l'islamisme, on nous traite de raciste. Il sait déjà qu'il aura droit à des tonnes d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, mais il ajoute à l'adresse de la cour « Si nous sommes là, c'est à cause de ce fanatisme religieux et nous ne sommes pas nombreux sur la barricade ».
Florence Turm qui suit jusqu'au 10 novembre prochain pour France Culture ce procès des attentats de janvier 2015. Chroniques judiciaires, ces chroniques judiciaires sont à retrouver en une sur franceculture.fr. En Grèce, l'aide d'urgence s'organise après les incendies qui ont ravagé le camp de migrants de Moria sur l'île de Lesbos, le plus grand et le plus sordide camp d'Europe. Deux bâtiments de la marine grecque se rendent sur place aujourd'hui pour héberger des migrants. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants aujourd'hui sans abri. Des responsables grecs les accusent d'avoir voulu s'opposer au contrôle sanitaire après des cas de Covid, ce qui aurait provoqué ces incendies. Mais pour Médecins Sans Frontières, c'est plutôt le résultat de plusieurs années de souffrance et de violence produites par les politiques migratoires européennes. De violentes émeutes ont éclaté à Bogota et dans d'autres régions de Colombie hier après la mort d'un homme qui avait reçu des décharges électriques répétées administrées par des policiers qui l'immobilisaient au sol. Le vice-président de la Commission européenne rencontre aujourd'hui le ministre britannique Michael Gove pour une explication de gravure dans le cadre de négociations post-Brexit bloquées par la volonté de Londres de revenir sur certains de ses engagements concernant essentiellement l'Irlande du Nord. Désormais, la réaction de l'Union européenne pourrait se déplacer du champ politique au champ juridique, Pierre Benazé.
Malgré le départ du Royaume-Uni, la langue anglaise reste fermement enracinée dans les institutions européennes, mais depuis hier, c'est une locution latine, une locution juridique qui est sur toutes les lèvres. pacta sunt servanda, ce qui a été convenu doit être appliqué. Un principe cardinal du droit international. Les Européens n'ont pas attendu pour s'offusquer de voir noir sur blanc le texte de Downing Street, puisque le secrétaire d'État chargé de l'Irlande du Nord a expressément reconnu que la révision proposée viole le droit international. Et pour les 27, le secrétaire d'État a tort de parler d'une révision spécifique et limitée. Pour les Européens, c'est tout ou rien. Un accord doit être respecté dans son intégralité, pas question de changer une virgule. Et d'ailleurs, tout est prévu dans l'accord de sortie, puisque plus de 10 articles décrivent point par point comment peuvent être réglés les différends entre l'UE et le Royaume-Uni, avec à la clé une procédure d'arbitrage et avant cela une instance appelée comité mixte. Et la procédure est d'ores et déjà engagée puisque l'Union a demandé dès hier la réunion de ce comité mixte qui aura lieu à Londres aujourd'hui.
Pierre Benazet à Bruxelles pour France Culture. Les salariés du privé contraints de garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, de leur école ou du collège et qui seront dans l'impossibilité de télétravailler seront placés en activité partielle. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement hier soir dans un communiqué alors que plus de 8500 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en France ces dernières 24 heures. Lundi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait indiqué que 28 établissements scolaires étaient fermés ainsi que 262 classes partout en France à cause du Covid-19. Christophe Castaner, Aurore Berger, c'est l'affiche du second tour de l'élection pour la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Les résultats sont attendus cet après-midi et ils pourraient être serrés beaucoup plus que prévu. Résultat plus incertain encore car les deux finalistes font figure de candidats par défaut, Stéphane Robert.
Christophe Castaner et Aurore Berger étaient les deux finalistes attendus pour la présidence du groupe. François de Rugy n'a jamais retrouvé le crédit perdu aux yeux de nombreux députés à cause de l'affaire des homards. Et les deux autres candidats, Coralie Dubost et Patrice Anato, n'avaient ni la notoriété ni la pugnacité de leurs adversaires. Pour autant, il n'y a aucune évidence. Aucun des deux finalistes ne fait figure de favori. Leurs scores respectifs le prouvent. 97 voix pour Christophe Castaner, 81 pour Aurore Berger. Et l'une des raisons essentielles est qu'ils apparaissent tous deux avoir postulé par défaut à cette fonction de président de groupe à l'Assemblée. Christophe Castaner a été débarqué contre son gré du ministère de l'Intérieur et il essaie de se recaser dans l'esprit de nombreux marcheurs. Son adversaire, la députée des Yvelines, Aurore Berger, se retrouve un peu dans la même situation. Elle a mené une campagne assidue auprès de ses collègues députés tout au long de l'été, mais tous se souviennent de ses larmes juste après le remaniement début juillet. Elle n'avait pas été nommée ministre et affichait ostensiblement son désespoir et sa frustration. Pour ces deux-là, la présidence du groupe semble donc être un poste faute de mieux. Dès lors, quel que soit le vainqueur, il aura fort à faire pour s'imposer et convaincre un groupe qui doute, qui n'est plus majoritaire à lui tout seul à l'Assemblée et qui continue, on l'a constaté ces derniers jours, à perdre des députés.
LVMH et Tiffany ne se passeront finalement pas la bague au doigt. Le groupe de Bernard Arnault ne s'estime plus en mesure de racheter en l'état le joaillier américain. Le géant français du luxe estime que la lettre du Quai d'Orsay lui demandant de reporter son achat au-delà de la date butoir du 24 novembre rompt de fait les fiançailles avec Tiffany. Cela ne lui permettrait pas d'aller au bout de l'acquisition. Les marchés financiers soulignent eux que la valorisation du joaillier américain était bien trop élevée au regard de la chute des ventes du luxe aux États-Unis depuis la crise sanitaire. Quelques mots du temps de ce jeudi 10 septembre, nuageux et orageux des Alpes jusqu'à la Corse, plus ensoleillé dans le reste de l'Hexagone. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 21 et 31 degrés du nord au sud.